Alors, j'ai choisi un passage qui est extrêmement connu. Et en fait, j'ai pas eu de mal parce que dans la préparation au baptême, il y a deux futurs baptisés qui ont mentionné le même verset. Et ça a été encore redit dans le témoignage de l'un ou de l'autre ce matin. Et je sais pas si vous avez besoin de tourner dans la Bible parce que psaume 23, verset 1, qui le connaît pas? On le dit ensemble, l'Éternel est mon, je ne... Bon, Michael a dit « Je ne craindrai rien ». Oui, c'est vrai, mais c'est « Je ne manquerai de rien ». Voilà. Et justement, j'ai eu la joie de prêcher en Martinique ce verset dans une église. Alors, merci Seigneur. Voilà, je suis préparé par la grâce de Dieu. En fait, il y a une grande affirmation ici de David, qui était aussi lui-même un berger. David était connu comme étant celui qui était derrière ses brebis que le Seigneur appelait et a ouin finalement pour devenir le roi d'Israël. Et quel combat David n'a-t-il pas eu dans sa vie? Mais David, ici, dans le psaume 23, est dans la plénitude de la vie d'abondance, de relation avec Dieu, l'Éternel, qui est son berger. Avez-vous une telle relation avec Dieu? Est-ce que Jésus est-il vraiment votre berger? David connaissait ce que c'était que la vie de berger et prendre soin des brebis. Vous savez, c'est pas une bonne nouvelle dans un sens, quoi qu'on doit connaître la vérité de la part de Dieu. Quand Dieu nous compare à un troupeau de brebis, il est en train de dire, en fait, que nous sommes bien faibles. Et j'ose dire un peu stupide. Je vais vous expliquer. Dans le sens que la brebis s'égare facilement, elle ne sait pas où aller manger. Elle est la proie de prédateurs sans aucune défense. Elle est souvent bien innocente. Et finalement, elle peut se rendre malade très facilement. Et elle dépend constamment du berger. Il y a une dépendance totale de la brebis du troupeau envers le berger. Et quand David dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », il est en train de dire « Je suis en train de dépendre de mon berger qui est Dieu. Je suis en train de dépendre de Dieu ». Est-ce que chacun d'entre nous ici ce matin dépendons réellement de Dieu? Jésus lui-même a dit, je suis le... Oui, c'est vrai, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, il ne vient au Père que par moi. Vous avez retenu le passage qu'a lu notre sœur Michaela. Mais il a dit, je suis le bon berger. Merci. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il y a des bons bergers, il y a des mauvais bergers. Il y a des bons bergers, il y a des mercenaires, nous dit les Écritures, notamment dans l'Évangile de Jean. Mais Jésus, dans la Nouvelle Alliance, est le bon berger. Il est intéressant ici que le premier mot, c'est l'Éternel. L'Éternel est mon berger. Dans la traduction anglaise, les anglophones, peut-être dans vos Bibles, vous avez « My Lord is my shepherd ». Mais en fait, mon Seigneur est mon berger. Mais en fait, Yahweh, c'est le mot hébreu qui signifie « il est celui qu'il est ».« Je suis celui qui suis ». Et c'est exactement le nom de Dieu que Dieu a donné de se faire connaître ainsi à Moïse. « Je suis celui qui suis ».« Moi, je suis ». C'est exactement aussi la même expression que Jésus a employée alors qu'il était face à l'incrédulité des juifs, pharisiens, religieux. Il a dit, moi, je suis. Ego imi en grec. Moi, je suis. Il a pris exactement les mêmes mots en grec, en araméen exactement, mais là, c'est traduit en grec dans le Nouveau Testament, que Dieu a donné à Moïse. Jésus est Dieu. Et de même que l'Éternel est le berger, le bon berger, d'Israël, qu'il a conduit constamment, parfois avec châtiment, parce que le troupeau s'égarait. Mais Jésus est devenu le bon berger. Jésus est Dieu. Et Jésus s'est fait brebis, lui-même, afin de devenir un berger par excellence. C'est extraordinaire, cela. Jésus est devenu le souverain pasteur. Il est devenu celui qui s'étant fait brebis, qui est mort sur la croix afin que nos péchés soient effacés. Il a porté par son corps comme une brebis qui s'est sacrifiée, comme on sacrifiait dans l'Ancien Testament les animaux. Il a pris la malédiction qui devait tomber sur nous, notre enfer, qui est la séparation d'avec Dieu pour toujours, parce que Jésus est devenu brebis pour chacun de nous, avant de devenir notre berger. Et il connaît nos faiblesses, il sait de quoi nous sommes faits, ayant été une brebis lui-même, Dieu fait homme, je m'empresse de le dire, Dieu incarné, il sait exactement ce dont nous avons besoin. Jésus est le bon berger. Il a dit ceci, Dieu à Moïse, je suis celui qui suis, il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous, et Jésus est celui qui dit aussi Je suis, et dans l'évangile de Jean, on a étudié l'évangile de Jean ici pendant 3 ans, je pense, il y a 7 « je suis » clés. Je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis la porte des brebis, ainsi de suite. Et Jésus est celui qui peut répondre à nos besoins. Mais ce qui est intéressant dans le nom de Dieu, qui est le mot éternel, il y a l'idée de l'éternité, du fait que Dieu est au-dessus du temps. L'éternel, Yahweh, je suis celui qui suis, ça veut dire qu'il est toujours au présent, tout en regardant le passé et en connaissant l'avenir. C'est comme si vous aviez une ligne ici qui symboliserait l'éternité, et Jésus peut se déplacer dans le temps quand il veut, parce qu'il est Dieu et parce qu'il est éternel. Ça veut dire que Jésus connaît, et Dieu, l'éternel, connaît le passé, il connaît le présent et il connaît l'avenir. Ça veut dire que Jésus a répondu à nos besoins passés, Jésus est en train de répondre à nos besoins présents, et Jésus est prêt et capable de répondre à nos besoins futurs, parce qu'il connaît notre avenir. C'est un repos de savoir que Jésus connaît mon passé, que Jésus connaît mon présent et que Jésus connaît mon avenir. Il a comblé mes besoins passés, il est en train de combler mes besoins présents et il comblera mes besoins à venir. Alors, je vois qu'on a été assez bon dans l'horaire, donc je vais en profiter un petit peu, Denis, d'accord ? Dans l'idée que l'éternel est d'abord dans la Bible synonyme de Rédempteur. Et ça se trouve dans, en Genèse chapitre 2, verset 5, Yahweh Elohim, c'est le premier nom composé de Yahweh qui signifie que Dieu est celui qui rachète, celui qui a payé un prix et celui qui rachète au prix, évidemment, dans l'Ancien Testament, des sacrifices symbolisant par le sang versé, le sang de Jésus qui allait être versé à la croix. Alors rapidement, parce que je n'ai pas tout à fait le temps, c'est vrai Denis, d'être trop long, mais j'aimerais vous donner quelques noms composés qu'on trouve avec Yahweh dans la Bible. Premièrement, l'éternel pourvoira, c'est Abraham qui sacrifie son fils, et vous allez voir, je vais résumer énormément, et Dieu lui a demandé de sacrifier Isaac, son fils, qui symbolise Dieu le Père, qui un jour allait sacrifier son fils unique. Il y avait un substitut qui est apparu. Et là, il est écrit que l'Éternel pourvoira. Dieu a pourvu un substitut pour pas que Isaac soit sacrifié. Et Jésus est devenu notre substitut parfait, notre sacrifice parfait. C'est pas à nous de mourir, c'est Jésus qui est mort à notre place. Aussi, quand le peuple est arrivé aux eaux de Mara, les eaux étaient amères et le peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a murmuré. Ça vous arrive de murmurer? Alors, soyons honnêtes, chacun de nous, ça nous arrive de temps en temps, quand ça va pas, on dit pas « je murmure devant Dieu », mais ça revient un peu au même. Et puis les eaux étaient amères, et Moïse a jeté son bois, symbolisant la croix, dans les eaux amères, et en a fait des eaux douces. Et Dieu a promis à ce moment-là au peuple que s'il suivait ses commandements, il le préserverait de toute maladie, et il s'est présenté comme l'Éternel qui guérit, Yahweh Rapha. Et c'est vrai que l'Éternel peut guérir physiquement, nous le croyons, mais aussi guérit le cœur. Et c'est ce que ont manifesté et témoigné nos 4 baptisés ici. Ils ont manifesté une transformation de vie et de cœur. Et il y a aussi l'Éternel ma bannière, dans le sens que Amalek combattait Israël. Alors Moïse priait, Aaron et Hur étaient en train de tenir ses mains de part et d'autre, et tant que ses mains étaient levées, alors Josué dans le combat était vainqueur, et là le nom qui a été donné c'est l'Éternel ma bannière, c'est symbolique de notre victoire. Jésus-Christ, nous avons tout pleinement en lui, et nous avons la victoire tout pleinement en lui. Alors il est notre berger, c'est celui qui nous rachète, c'est celui qui prend soin de nous, et c'est celui qui nous guérit, c'est celui qui nous donne la victoire, et c'est aussi notre paix. Vous savez, quand Gédéon a vu l'ange de l'Éternel, il a tremblé, parce qu'il a réalisé tout d'un coup qu'il était en présence de Dieu lui-même, et il était tout troublé. Et là, Dieu lui a donné sa paix. Et c'est la même manière pour nous, les enfants de Dieu, nous avons besoin de la paix. Jésus-Christ donne sa paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas la paix que le monde donne, je vous donne ma paix. Et un peu plus loin, il est écrit en Jérémie, Yahweh, notre justice. Jérémie est un prophète qui a beaucoup souffert. Il a dû prophétiser sur des malédictions ou des jugements de Dieu sur Israël. Et en fait, vous savez, son ministère n'était pas du tout facile. Et pourtant, de vaincu qu'il était et brisé qu'il était, Dieu dit qu'il en a fait un vainqueur et vainqueur sur toutes les nations. Mais la lumière qui a motivé Jérémie, c'est qu'il voyait qu'un jour, par les prophéties lui-même qu'il prononçait, que Dieu allait établir un jour sa justice, rétablir Israël, châtier les nations qui avaient envahi Israël. C'est l'Éternel notre justice. Et Christ, c'est notre justice. Non seulement il nous justifie, parce qu'à la croix il a pris nos péchés, mais il est quotidiennement notre justice. Lorsque nous vivons des injustices, nous avons le droit de plaider que l'Éternel, qui est notre berger, fasse justice, parce que Dieu est juste, et Jésus a été fait justification pour nous. Il est le grand juste. Et enfin, pour terminer, j'ai vraiment résumé, Denis, Yahweh Shama, c'est Yahvé est présent, c'est en Ézéchiel, c'est à la fin des temps, et dès ce jour, le nom de la ville sera appelé « L'Éternel est ici ». C'est notre espérance qu'un jour, on voit toute cette terre remplie de la présence de Dieu. Alors en Martinique, mon épouse et moi, on s'est réjouis. Ça a été tout un ministère, hein, 9 prédications en 11 jours. Mais on a vu une soif chez les croyants. Et on était heureux d'apprendre qu'à Martinique, il y a 10% de croyants évangéliques. Et nous, en France, on est loin d'être ce nombre-là. Mais on a envie de visiter les pays où tout le monde serait croyant dans le sens de connaître Jésus. Quand je dis évangélique, c'est connaître Jésus-Christ. Ce serait merveilleux, cela, que l'Éternel est partout. D'ailleurs, Dieu est omniprésent, mais il n'est pas toujours visible. Parce que le péché de l'homme, n'est-ce pas, est un obstacle à la présence de Dieu. Mais un jour, lorsque Jésus-Christ règnera, l'Éternel est ici. Tout le monde saura que Dieu est présent. Ce sera merveilleux, cela. On n'aura pas besoin de dire « Connais-tu Dieu ?» Tout le monde connaîtra Dieu. Il est ici, il est présent. Il est présent, déjà au milieu de nous, c'est vrai. Alors, mon berger, David disait « L'Éternel est mon berger ». Il avait une relation de dépendance. Jésus a dit « Je suis le bon berger, donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire qui n'est pas le berger, à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. » Mais Jésus est le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. L'Éternel est mon berger. Vous vous rendez compte? Un jour, j'ai lu le psaume 23, et à la place de berger, ils avaient mis la drogue. N'est-ce pas? La drogue est mon guide. Enfin, la drogue est mon guide, et ainsi de suite. Imaginez que vous ne connaissez pas Dieu comme berger. Qu'est-ce qui est votre addiction? Ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être le sexe, ça peut être l'argent, ça peut être l'ambition professionnelle, ça peut être toutes sortes, le sport, ça peut être l'idolâtrie de stars de la chanson ou du cinéma. Mais non, Jésus veut la première place pour être le berger. Et dans ce cas-là, la Bible dit qu'on ne manque de rien, absolument de rien. Jésus est mon berger, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous avons 3 sortes de besoins, des besoins physiques, des besoins matériels et puis des besoins spirituels. Jésus est celui qui peut donner le repos du cœur. Et en donnant le repos du cœur, il donne un vrai repos physique. Vous savez, on peut partir en vacances, on peut même s'agiter, faire toutes sortes de choses, mais le vrai repos, c'est en Jésus-Christ. Même physiquement, même si on a vraiment besoin de repos, c'est vrai. Mais Jésus est celui qui peut toucher nos corps pour nous donner un vrai repos, parce qu'il touche l'âme. Et quelqu'un qui a le cœur en paix se repose en Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se reposer physiquement, bien sûr, mais la Bible dit ceci, je vous le lis, à vous les jeunes baptisés. Il augmente, il donne la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lâchent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Tout en marchant, tout en vivant pour le Seigneur, on a besoin d'apprendre à se ressourcer en Jésus-Christ. Et ça prend le ressourcement de l'âme et du corps. Nous avons aussi besoin, dans notre vie matérielle, d'être comblés matériellement, selon Dieu. Et Dieu a dit quelque chose d'extraordinaire, c'est Paul qui l'a écrit. « Mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Je dois vous dire une chose, que ma femme et moi, nous avons vécu parfois complètement vraiment dépendants de Dieu, au point que si on n'avait pas Dieu qui intervenait, on ne pouvait pas manger. On était missionnaires au Canada, et les premiers mois, on a pris une église, on est rentré dans l'église, on avait 23 cents, centimes si vous voulez, dans notre compte en banque, et on a vu Dieu pourvoir. Mais il y a une profonde joie de savoir que c'est Dieu qui pourvoit nos besoins. Il y a une profonde joie de voir que c'est Dieu qui nous donne la nourriture tous les jours. Dans nos pays occidentaux, où il y a l'abondance, on ne se rend pas compte. Mais il y a des pays qui ont des tels besoins qu'ils n'ont rien à manger. Petite anecdote, je ne voulais pas parler de moi, excusez, mais quand j'étais étudiant en théologie, j'étais vraiment fauché. C'était l'école de vivre par la foi. Et avec un copain, on avait tous les soirs droit à une soupe en sachet, vous savez. Mais tous les soirs, c'est tout ce qu'on avait. Même parfois, on n'avait pas de pain. Alors, une souche en sachet, soupe en sachet, on versait ça dans l'eau chaude. Et puis, il y a un jour, j'ai dit à mon copain, je sais pas, mais je me suis senti poussé par le Seigneur. J'ai dit, merci Seigneur pour le bon dessert que tu nous offres. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, Michel, il me l'a pas dit, il m'a dit, Michel, je pense que, je sais pas, là, il y a quelque chose qui va pas avec lui. Il peut-être un manque de sucre, je sais pas, mais. Et finalement, on rentre dans l'ascenseur pour descendre, et juste la dame de notre voisine de palier nous dit, hey, les étudiants, écoutez, j'ai fait tellement de biscuits, je sais pas quoi, je peux vous offrir des biscuits, j'ai pensé à vous. Oui, si vous voulez. Et puis, on a mangé notre dessert dans l'ascenseur. Et mon copain m'a regardé et m'a dit, Michel, je crois en toi maintenant. Dieu est prêt à combler nos besoins matériels. Il y aurait tellement de choses à partager et certainement, je ne suis pas le seul à pouvoir témoigner de l'amour de Jésus-Christ qui comble nos besoins matériels et physiques. Vous savez, je le dis souvent, hein, mais excusez-moi, je me répète. George Müller, il a nourri des centaines d'enfants sans avoir plus d'argent pour plus de 3 jours. Et quand il est décédé, il n'avait rien, mais il a tout donné. Mais le peu qu'il avait, Dieu l'a multiplié pour nourrir des enfants et les élever dans le Seigneur. Ça, c'est la grâce de Dieu lorsqu'on fait confiance que Dieu est celui qui pourvoit nos besoins matériels. Le troisième domaine, ce sont nos besoins spirituels. Nous avons besoin de continuellement avoir le Jésus-Christ dans nos vies, la plénitude du Saint-Esprit. Dieu a dit, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Où est-ce que nous allons chercher le vrai bonheur, le vrai sens de la vie? Le salut, d'abord, c'est en Jésus-Christ. Et si ce matin, quelqu'un n'avait pas mis encore sa confiance en Jésus-Christ, je l'invite à croire que Jésus veut être son berger. Parce que c'est merveilleux, comme vous avez entendu les témoignages de nos baptisés, c'est merveilleux de connaître Jésus comme sauveur, comme berger, un guide suprême dans la vie, quotidiennement, qui prend soin de nous et qui nous aime. Jésus veut prendre soin de nous et nous avons besoin continuellement, notamment d'amour. L'homme ne peut pas acheter l'amour. L'argent achète beaucoup de choses, mais on ne peut pas acheter l'amour. On ne peut pas acheter le bonheur. Mais Jésus est la vie. Il veut donner la vie en abondance. Et l'homme qui est rempli de l'amour de Christ est un homme heureux. Et la Bible dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Une fois qu'on connaît Jésus-Christ, l'amour de Christ, on a l'amour pour les autres. Et Paul, qui ne savait pas comment décrire l'amour de Christ, à un moment donné parle de 4 dimensions de l'amour. Normalement, on décrit bien des choses en 3 dimensions. Il parle de la hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur, parce qu'il est émerveillé devant l'amour de Dieu le Père en Jésus-Christ. Et l'amour de Dieu est large parce qu'il s'est étendu envers tous les hommes. L'amour de Dieu est long parce qu'il dure éternellement. Il est profond parce qu'il s'est incarné, il est descendu du ciel. Il est élevé parce qu'un jour il va nous élever. Il est très élevé et très haut parce qu'un jour on va aller au ciel avec lui. C'est un amour parfait en 4 dimensions. C'est l'amour de Dieu. Et on ne peut pas ne pas vivre sans amour. On a besoin d'amour et on peut toujours le demander. Et on a aussi besoin de sagesse. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'est-ce que dit la Bible? Qu'il la demande avec foi, sans douter, et elle lui sera donnée. On a besoin d'amour, on peut aller à la source de l'amour. On a besoin de sagesse, on peut aller vers Jésus, qui a été fait sagesse pour nous. On a besoin de patience. Un copain un jour m'a dit, oh, moi je suis très impatient de devenir patient. C'est difficile la patience. C'est difficile d'acquérir la patience. Et c'est marrant parce que quand on fait le maître et son disciple, à un moment donné, il y a une question, on parle du fruit de l'esprit. À votre avis, quel est le fruit de l'esprit dont vous avez le plus besoin? Vous savez, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bénédiction, la patience, la maîtrise de soi. Et vous savez, je suis heureux que je ne sois pas le seul, parce que moi-même, quand je le fais, je suis obligé chaque fois de mettre patience. Mais savez-vous, la plupart avec moi, quand ils font le cours, avant que je leur dise quoi que ce soit, me disent « j'ai besoin de patience ». Et c'est vrai que Dieu est patient vers nous. Il veut nous apprendre la patience d'attendre comment il va répondre à nos vies, comment il va se manifester, nous diriger. Parfois, on est impatient de savoir l'avenir. On doute un petit peu, mais Dieu est patient. Il a un temps pour répondre. Il y a une expression en anglais, excusez, je me lance en anglais, « God's timing is perfect ». Il y a un temps avec lequel Dieu gère qui est parfait. La façon avec laquelle Dieu gère notre temps est parfait. Dieu reste souverain. Et nous devons croire à la toute souveraineté de Dieu. Et aussi, on a besoin de paix. Vous savez, l'apôtre Paul, je me suis toujours demandé, on ne le souligne pas souvent, mais dans presque toutes les épîtres qu'il a écrites, il dit quoi ? Que la grâce et la paix de Dieu notre Père, notre Seigneur Jésus-Christ, vous soient accordées. La grâce et la paix, on en parle beaucoup. Hein. Dieu donné a vécu, la grâce a expérimenté la grâce de Dieu, gloire à Dieu, et plusieurs d'entre nous ici. On a besoin de la grâce, mais on a besoin de la paix tous les jours. On est sauvé par grâce et on continue à vivre par la grâce. On découvre la paix de Jésus, mais on a continuellement besoin de la paix de Jésus. Et Jésus est prêt à nous combler et à nous donner cette paix. On a besoin de compassion. On a besoin d'amour envers les âmes qui se perdent. Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elles. Nous avons besoin de pleurer avec les larmes de Jésus pour ceux qui périssent, qui ne connaissent pas Jésus. On a besoin aussi de foi. Les disciples ont dit « augmente-nous la foi », mais Jésus désire qu'on ait la foi. L'incrédulité est parfois un péché dans nos vies, pas souvent mentionné, mais c'est un péché. On a besoin aussi de la sagesse de Dieu pour savoir où aller, et c'est pour ça que le psalmiste disait « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers ». Il y a des grandes décisions de la vie où on a vraiment besoin de Jésus qui nous dirige. Alors, on a besoin de Jésus tout le temps, mais il y a des grandes décisions de la vie où on a besoin de Jésus. Et puis, on a besoin de sa présence. Et on peut toujours aller vers Jésus, qui est le bon berger, lui demander sa présence. Vous savez, j'ai découvert, avec l'âge, qu'on a tendance à vouloir être en communion avec Dieu. Et c'est bien. Mais savez-vous quoi ? Dieu le désire encore plus que nous. Dieu désire être en communion avec chacun. Et Dieu veut tout, et il fait tout son possible pour que sa communion soit parfaite en nous. Comme disait l'apôtre Jean, afin que notre joie soit parfaite. Dieu désire être présent dans notre vie. Et sa présence fait toute une différence. On a besoin de ressentir l'affection de Jésus, loin d'amis peut-être, loin de sa famille, loin de son pays. Dieu peut être présent et nous combler. On a besoin d'humilité, de pardon. On a besoin de, je termine avec cela, parce que la liste est longue, n'est-ce pas, de plénitude. Jésus a dit, enfin Paul a dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Combien d'années de vie chrétienne doit-on avoir pour être rempli du Saint-Esprit ? Juste à partir du moment de la conversion. La plénitude du Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu dans nos vies, dans la mesure de notre obéissance aux Écritures et à la voix du Saint-Esprit en nous. Jésus veut nous donner et nous combler de tous ses bienfaits. Et je vais terminer comme cela. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que nous croyons vraiment que Dieu, créateur du ciel et de la terre, est capable de combler tous nos besoins physiques, matériels, spirituels, sachant que la Bible affirme, nous avons tout pleinement en lui, tout, on ne manque de rien. Quand Christ est en nous, on a tout. Connaissez-vous ce bon berger ? Alors je vous invite, dans vos cœurs, peut-être là où vous êtes, de prier et de dire, Seigneur, je veux que tu sois le berger de ma vie. Entre en moi, donne-moi la vie, le pardon, la vie éternelle. Sauve-moi. Vous pouvez le dire dans votre cœur à l'instant, au secret de votre cœur, juste entre vous et le Seigneur. Prions. Notre Père, merci d'avoir été tout au long de cette matinée avec nous. Nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire de ce que tu fais dans nos vies, et merci pour chacun ici qui a été baptisé. Nous te donnons, Seigneur, honneur et louange au siècle des siècles. Amen.